Merci d'être avec nous pour ce nouvel Esprit public, l'actualité de la semaine, revue et corrigée par nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, l'ancien ministre Hubert Védrine, l'écrivain et metteur en scène Wajdi Mouawad et l'économiste Daniel Cohen. C'était un peu le mot d'ordre de la semaine, se construire dans l'opposition plutôt que dans la concordance. Regardez le président Macron construire son intervention à l'ONU mardi dans l'opposition parfaite à celle du président Trump. Le jeune Français disant multilatéralisme quand le vieil Américain disait souveraineté. Macron vantant les vertus du dialogue en termes diplomatiques choisis quand Trump menaçait en mode jeu vidéo de détruire totalement la Corée du Nord de Rocketman. Le poids des mots, le choc des symboles et tant de questions laissées sans réponse. Au lendemain du survol de la péninsule nord-coréenne par des bombardiers américains, et tandis que le président Twitter déclare que le nouveau test de missile de l'Iran remet en cause l'accord international avec Téhéran, à quoi ressemble vraiment le monde selon Donald Trump ? Se construire dans l'opposition plutôt que dans la concordance, litote appropriée pour évoquer l'autre temps fort de la semaine, française cette fois. Mélenchon hier, clamant haut et fort qu'il y a une alternative à Macron, célébrant la rue qui aurait abattu, je cite, les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE. Propos tenus à l'occasion de la journée de mobilisation de la France insoumise, 30 000 personnes selon la police, 150 000 selon les organisateurs. Mélenchon détaillant sa vision de la France quelques jours auparavant dans le journal Marianne, après que Macron avait détaillé la sienne dans Le Point. Mélenchon ou la loi plutôt que l'entreprise pour protéger le salarié, la commande publique plutôt que la flexibilité et la rigueur budgétaire pour relancer l'économie, le peuple plutôt que ce qu'il nomme l'oligarchie. Asseoir le mélenchonisme comme opposition au macronisme, s'opposer mais aussi et surtout convaincre que Mélenchon s'est aussi proposé, lui qui aime volontiers citer Camus, dire non, c'est le plus souvent dire oui à autre chose.
C'est pas vrai que l'entreprise est l'alpha et l'oméga de toute réalité, que la seule chose qui compte c'est ça, c'est pas vrai. Ce qui compte c'est la qualité de la vie des gens, la qualité des objets qu'on produit, avec quels matériaux. Voilà ce qu'on pourrait discuter à propos du travail. Là, il n'est question que d'une chose, comment baisser la part du salaire. C'est tout. C'est leur seul sujet, baisser le salaire. Donc c'est un vrai bras de fer qu'on a. C'est deux mondes, deux visions de la société qui s'affrontent. Il y a d'un côté M. Macron, c'est chacun pour soi, et de l'autre côté, il y a nous, c'est tous ensemble.
Jean-Luc Mélenchon, que vous venez d'entendre sur sa chaîne de télévision YouTube, message enregistré il y a quelques jours, la politique selon Mélenchon, première partie de ce nouvel esprit public, au lendemain, nous le disions, de la grande journée de mobilisation des insoumis. Dans le Marianne de la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon s'attachait déjà à démontrer comment il propose une alternance au macronisme, une confrontation culturelle, point par point, dossier par dossier. Le politologue Jérôme Sainte-Marie écrit cette semaine dans l'Express, je le cite, « La radicalité du projet réformateur et libéral d'Emmanuel Macron suscite mécaniquement une réaction symétrique dans une partie de l'opinion que seul le mouvement de Mélenchon est aujourd'hui en train de cristalliser. Est-ce que c'est aussi votre analyse, Daniel Cohen ?
Oui, enfin, il me semble que c'est à peu près ce que disent d'ailleurs tous les sondages, que Mélenchon a surgi comme l'opposant en chef au gouvernement actuel. Et je pense que c'est dû, pour le dire simplement, à deux facteurs. Un facteur strictement politique et puis un facteur qui tient au terrain sur lequel se fait aujourd'hui cette rentrée pour le gouvernement. Sur le terrain politique, c'est à peu près clair que il n'y a plus de la présidentielle que Mélenchon qui a survécu. Les autres candidats, y compris d'ailleurs les candidats aux primaires, ont été tout à fait tout simplement balayés. À droite, on avait Fillon, Sarkozy, Juppé. Bon, ben, ils sont partis à la retraite ou forcés de quitter la scène politique. À gauche, la primaire avait donné lieu à un second tour entre Valls et Hamon. Les deux ont quitté le Parti Socialiste. C'est quand même assez extraordinaire quand on pense que c'était une primaire organisée par le Parti Socialiste. Et puis, à l'extrême droite, Madame Le Pen a le plus grand mal à survivre à l'échec de son fameux débat avec Macron. Donc, du point de vue de la scène politique, le seul survivant de cette séquence qui était assez dense quand même, pleine de rebondissements, c'est l'homme Mélenchon. Donc, il est presque l'héritier de cette séquence de l'année passée. Et puis ensuite, sur le terrain lui-même, le macronisme qui est souvent présenté comme un éloge de la complexité et en même temps, etc., sur le terrain par lequel commence son mandat, celui de la réforme par les ordonnances du Code du travail, bon, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de complexité. C'est presque toujours et systématiquement rendre plus simple de licencier les gens, favoriser la vie des entreprises. On peut faire évidemment un débat sur la question de savoir si c'est opportun ou pas dans la circonstance actuelle, mais on n'a pas vu d'éléments de triangulation. Dire, voilà, je mets par exemple, pour prendre un exemple très simple de ce qui aurait pu se passer, je mets un plafond aux indemnités prud'homales, mais je supprime les CDD, quelque chose de cette nature, pour montrer qu'il y avait comme un jeu de vases communicants entre un type de réforme et un autre. C'est pas du tout ce qui s'est produit, c'est même exactement l'inverse. On a non seulement pas supprimé les CDD, mais on a rajouté un autre type de contrats qui vont plutôt dans le même sens. Donc, pour Mélenchon, bah c'est très clair. À une pensée qui n'est plus complexe, je réponds par une réponse, une protestation qui ne l'est pas non plus, qui s'affronte, s'oppose point par point à ce qui est proposé. Donc, je crois que la conjonction des deux explique le moment Mélenchon que nous vivons aujourd'hui.
Hubert Védrine, sur ce moment Mélenchon, comme dit Daniel Cohen.
Oh, je pense que c'est très exagéré. Hein. Je comprends ce que vous venez de dire sur la façon dont Mélenchon peut ramasser les mécontentements variés, mais moi je me pose, ce qu'il dit est tellement faux et tellement extravagant que ce qui m'intéresse c'est de savoir, est-ce que les gens qui sont séduits par Mélenchon aujourd'hui, qui sont assez nombreux, parce que les autres ont disparu du paysage.
On a vu Benoît Hamon aux côtés de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs dans ses cortèges.
Oui, c'est un spectre. Donc ce qui m'intéresse, est-ce que les gens sont convaincus par ce qu'il dit, qui pour moi est faux à 100%, est-ce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils proposent, éventuellement, ou est-ce qu'ils sont séduits par l'homme? Le seul point que je peux un peu comprendre, c'est le troisième, parce que c'est un homme de talent, attachant, émouvant. Moi, je l'ai connu dans une période préhistorique, qui était sa période mitterrandienne, avant la période vénézuélienne, on va dire. Mais il a quelque chose, c'est vrai, c'est évident. Donc on voit bien que dans une phase où il s'agit de parler, de rassembler des gens, il a des atouts qu'aucun des autres, tous ceux qui ont disparu, que vous avez énumérés, n'avait, en fait. Donc ça, c'est la question que je me pose. Et je pense que le fait majeur de la semaine, c'est que les ordonnances aient été publiées, beaucoup plus que la façon dont Mélenchon essaie de récupérer des mécontentements variés face à la France qui fait, enfin, à sa façon, les réformes qu'ont fait à peu près tous les pays développés pour réduire le chômage de masse, en fait. Et voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne. Je ne pense pas que ça soit une grosse menace pour Macron, et que c'est même un avantage pour lui, en fait. C'est la seule opposition qui survit en France pour le moment, parce que ça va changer après. Aussi bien à droite qu'à gauche, c'est Mélenchon, il n'a pas tellement de soucis à te faire dans la phase très réformatrice dans laquelle il est.
Dans cette volonté qu'a Jean-Luc Mélenchon de confronter point par point deux visions de la France, évidemment, il explique dans cette longue interview accordée au journal Marianne le rejet chez lui très fort de ce qu'il appelle le modèle anglo-saxon. Jean-Luc Mélenchon dit de Macron qu'il est un concentré de Blair et de Thatcher qu'on tente d'imposer à la France. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Monique Cantos-Perber, vous qui êtes une spécialiste de la pensée libérale et qui travaillez depuis des années à concilier libéralisme et socialisme?
La pensée de Mélenchon est simple, certainement, mais elle n'est pas sans puissance ni capacité de ralliement. Et je ne voudrais pas sous-estimer le potentiel qu'elle a d'agrégation de toutes les oppositions à Macron. Sa restitution d'une nouvelle conception du populisme qu'il appelle populisme de gauche, sa notion même de coup d'État social, qui quand on analyse est lourde de problèmes et de questions, ne sont pas à négliger. Mais avant d'en arriver à cette analyse, je voudrais tout de même souligner les très grandes affinités entre la manière dont Mélenchon et Macron se sont positionnés aux premières loges de la scène politique. Ils sont tous les deux partis du constat qu'au fond, les partis traditionnels, la droite et la gauche, n'étaient plus qualifiés pour réformer la France, pour changer la France, pour changer le système, comme dit Mélenchon. L'alternance ne permet pas la réforme, d'où le besoin d'associer une vision avec un autre type de mobilisation populaire. Alors, chez Macron, ça déjà s'est fait dans un certain milieu, une certaine base sociale forte étroite. Chez Mélenchon, cela s'est fait autrement, mais chez l'un comme chez l'autre, on observe le même type de dynamisme politique, mouvementiste, puisque tous les deux ont adopté ce mot pour caractériser la mobilisation qu'ils ont induite. Mouvementiste, c'est-à-dire verticalité, adhésion fluide, circulation, pas de clientèle, déprofessionnalisation de la vie politique. Et évidemment, qu'est-ce qui fait tenir tout cela? C'est le chef Mélenchon et le chef Macron. D'une certaine manière, d'un point de vue structurel, il y a beaucoup de référents entre eux. Ce sont des ambassadeurs chez l'un, des référents chez l'un, des marcheurs chez l'autre. Mais la capacité de mettre en scène la personnalité, la capacité au fond de concentrer la compréhension des enjeux politiques dans une vision attachée à un homme leur est commune, et je ne serais pas étonnée en effet que cela débouche naturellement sur une opposition assez frontale, mais qui ne doit pas laisser de côté quand même l'intérêt intellectuel, comme vous avez rappelé. Je suis quant à moi libérale et je ne partage absolument pas, mais je nie pas l'intérêt intellectuel, au sens des options théoriques, de sa conception du populisme de gauche ou de ce coup d'État social.
Wajdi Mouawad, je vous regarde écouter très attentivement Monique Kantos-Perber, puisque Monique Kantos-Perber parle de mise en scène de deux chefferies, finalement, chef Mélenchon et chef Macron. Alors, qu'en pense le metteur en scène Wajdi Mouawad?
Eh bien, j'ai écouté aussi les mots qui ont été prononcés. Vous avez parlé du terrain, vous avez parlé de survivants.
Daniel
Cohen. Vous avez dit que quelques-uns ont survécu, pas tous. Vous avez parlé de spectre tout à l'heure, Hubert Védrine, et il se trouve que j'ai le sentiment, en fait, quand je me demande cette situation, à quoi elle peut me faire penser de l'endroit où moi je me situe, je me suis dit, tiens, on est après la mort d'Achille, c'est-à-dire l'effondrement d'un monde, et puis la grande question, à qui vont revenir les armes d'Achille? À qui va-t-on donner les armes d'Achille pendant la guerre de Troie? Et là, il y a deux personnes qui sont là, qui s'opposent, c'est Ajax d'un côté et Ulysse de l'autre. Et Ajax, il est très intéressant pour les deux personnages qu'on a à regarder aujourd'hui. Il est très intéressant parce que pendant la guerre de Troie, au moment où Achille décide de ne plus se battre parce que Agamemnon lui a piqué Briseis, eh bien, qui est-ce qui a permis au front grec de tenir contre les Troyens? C'est Ajax. Ajax se bat contre Hector. Ajax est véritablement ce qu'on appelle le rempart des Grecs. Et après la mort d'Achille, eh bien, Ajax est en droit de réclamer les armes d'Achille. Mais les armes vont être données à Ulysse. Et Ajax va ressentir une très très grande injustice. Et il va rassembler autour de lui un grand nombre de guerriers qui, en effet, disent, ne comprennent pas pourquoi cette injustice a été faite. Pourquoi ce n'est pas Ajax qu'on a remis les armes. Or, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde le texte d'Homère, c'est qu'on se dit, tiens, on était devant un choix. Soit la ruse et la puissance du langage, d'un côté, celle d'Ulysse, et de l'autre, celle de la puissance, de la force brute, ce qu'on pourrait appeler le peuple, etc. Et on a décidé que c'était la ruse qui allait gagner, c'était la ruse qui aurait les armes. Et fou de colère, Ajax se lance avec le désir de tuer tous les généraux grecs. Athéna lui lance un sort, et au lieu de tuer les généraux grecs, il va tuer les bêtes. Et quand il va revenir à son illusion, il va être face à une honte immense, et il va se donner la mort. Ce personnage d'Ajax, je le trouve assez intéressant parce qu'il il soulève avec lui toute la question des sentiments injustes, de l'injustice, du populisme, qu'on pourrait appeler d'une certaine façon, de cette idée simpliste qui veut que la force du corps, la force de la terre suffit à créer une pensée, une idée. Les deux se trompent. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on parlera de Trump, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, bon, ben là, dans la situation entre Mélenchon et Macron, c'est pas Mélenchon qui a gagné les élections. Mais dans le cas de Trump, c'est Trump qui gagne les élections. Alors, Trump gagnant les élections, eh bien, c'est Ajax qui aurait reçu les armes. Trump gagnant les élections, c'est Ajax c'est les Grecs qui choisiraient la force. Alors, c'est un peu ce que m'inspire un peu cette situation quand je me suis posé la question. À qui me font penser ces personnages et cette opposition, ce conflit entre les deux.
Après Alien, il y a 15 jours, cette semaine, c'était donc Homère qui vous
aidait.
Il faut
bien que je trouve mon angle.
Qui vous aidait, mais on aime beaucoup cette façon d'appréhender l'actualité de la semaine. Je reviens sur ce que nous disait tout à l'heure Hubert Védrine sur la nécessité de ces réformes qui ont été faites dans nombre d'autres pays européens, justement.
Non, pas qu'européens.
Et pas qu'européen.
Canada, Nouvelle-Zélande,
et bien sûr
tous
pas
les pays
qu'européen. Nous connaissons bien sûr cette lecture. Chez Jean-Luc Mélenchon, il y a ce refus dans l'interview à Marine de considérer justement qu'il faut en passer par les réformes pour retrouver le chemin de l'emploi. Il se réfère très souvent à l'Allemagne qui a fait les réformes et pour connaître ensuite, et là je le cite, l'enfer de la réussite allemande avec multiplication des travailleurs pauvres et une hausse de l'extrême pauvreté. Il parle de l'Allemagne comme d'un peuple vieillissant avec une économie fragile
c'est
qui repose
qui
sur un modèle de surexploitation sociale qui ne durera pas. Il y a chez lui cette volonté de s'inspirer, en tout cas de pouvoir citer d'autres pays d'Europe. Alors il cite notamment le Portugal comme dans une bataille de référence concernant les réformes.
Oui, mais ça c'est un cas particulier où il y a une sorte d'union de la gauche modernisée qui fonctionne au Portugal pour des raisons portugaises et qui naît, qui après que des réformes aient eu lieu d'ailleurs. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu du tout au Portugal le genre de réforme. Mais je ne vois pas pourquoi on se concentre à ce point sur Mélenchon. C'est complètement disproportionné. Son discours est extravagant point par point. On ne va pas le passer des heures à le disséquer. La comparaison, la rue qui a viré les nazis, par exemple, cette simple absurdité historique devrait discréditer l'ensemble du propos. Donc chaque propos peut avoir un retentissement, un rayonnement, parce que ça rencontre des mécontentements, des frustrations, et puis il y a tout le talent dont on a parlé, mais enfin, on ne va pas prendre ça au pied de la lettre au sérieux, quand même.
Lorsqu'il souhaite, lui, confronter...
Et je ne pense pas qu'il ait une base sociale plus... Je pense qu'il ait une base sociale plus étroite que le président, hein, en plus.
Alors, on va...
Mais il a un retentissement énorme dans les médias, Mélenchon.
Voilà, j'allais y venir. Est-ce que vous voyez une bienveillance médiatique, première question.
Bienveillance, non, mais un intérêt, une curiosité, c'est distrayant, et... Mais de là à prendre tout ça au sérieux, ça me paraît exagéré.
Monique Cortes-Ferber.
Je pense que ma tâche, en tout cas, telle que je la conçois quand je réfléchis à l'actualité, c'est de prendre le monde tel qu'il est et pas tel que je voudrais qu'il fût. Alors, Mélenchon a eu plus de 19% des voix au premier tour. Il a été en quatrième position, certes, mais après tout, on aurait pu imaginer qu'il se trouve au second tour. Donc ce n'est pas... quelque chose à négliger. Ça ne correspond pas du tout à mes options politiques, mais il y a certainement quelque chose derrière et qui, je crois, prendra de la puissance dans les années qui viennent.
Ça peut se dégonfler aussi.
Alors, je voudrais, par exemple, revenir dans le prolongement de ce qui vient d'être dit à cette notion de coup d'État social, parce qu'elle est très intéressante. Coup d'État social, c'est devenu vraiment le slogan qui légitime les différentes actions qui ont été entreprises et encore hier. Qu'est-ce que cela veut dire, ça, sens premier, littéral, coup d'État à finalité sociale, à finalité de modification de la structure sociale. Et de fait, Mélenchon arrive avec des arguments du type ordonnance, donc une forme d'abus de pouvoir. Il n'y a pas eu de discussion parlementaire à proprement parler. Il n'y a pas eu le jeu des amendements. Mais d'un autre côté, il n'y a pas eu non plus d'article 49.3 comme ça a été le cas sous le précédent gouvernement. Et puis par ailleurs, le président a quand même été élu avec une forte majorité au second tour. Nous sommes quelques mois après le deuxième tour, ça donne véritablement une légitimité politique et démocratique, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il est difficile de se limiter à cette interprétation. Mais si on prend les choses autrement, et si coup d'État veut dire coup contre l'État social, à ce moment-là, on a l'État de droit et l'État social. Et au fond, Mélenchon considère que l'État social, c'est une forme d'État de droit.
Donc il défend le chômage de masse,
donc,
auquel il ne faut pas s'attaquer.
Ouais, on va laisser finir Monique quand on se fait.
Non, mais on a le droit de parler entre nous quand même dans cette émission, j'imagine.
On va laisser finir Monique quand on se fait son développement.
État social à la part de l'État de droit. Alors là c'est, ça commence à devenir une thèse intéressante. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose à discuter là, parce que ça veut dire, autant que l'État de droit est un État à visée universaliste, qui est censé s'appuyer sur des normes et des valeurs qui ont une pertinence, on peut dire, transépoque, dans l'État social, ce n'est pas le cas. L'État social dépend d'un certain État de la société, d'un certain État des forces économiques. Une organisation de l'État social pouvait valoir à un moment et ne plus valoir à un autre moment et avoir même des effets totalement opposés aux finalités d'un État social, en particulier un chômage de masse, comme ça a été relevé. Bref, il y a dans cette compréhension d'un État social comme quelque chose qui a sa substance, sa permanence et au fond qui est une valeur en soi, une réalité qui mérite d'être interrogée. Pour Mélenchon, c'est fondé sur une hiérarchie des normes immuables, la loi... la branche, l'entreprise, pour se rapporter à la
donc
matière
dans sa pensée,
de la précédente loi.
On ne peut pas changer ça démocratiquement.
Et j'ai l'impression que pour qu'il y ait une modification de cela, Il faudrait vraiment une mise en scène forte de la légitimité populaire sous forme de référendum. D'ailleurs, c'est tout de manière fort cohérente, c'est ce qu'il a recommandé au président. Mais soumettez donc votre loi travail à un référendum.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Daniel Cohen, Jean-Luc Mélenchon pense qu'il est le seul à pouvoir jouer à la fois sur une opposition parlementaire et sur le mouvement social. On va préciser d'ailleurs, pour convaincre Hubert Védrine qu'il n'est pas complètement totalement inintéressant de parler du mélenchonisme aujourd'hui, on va rappeler que ça leur représentait quand même un vote massif des jeunes au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait en tête devant Marine Le Pen et devant Emmanuel Macron. Le fait qu'il soit le seul en effet à pouvoir jouer à la fois sur cette opposition parlementaire, 17 députés très bruyants au Palais Bourbon, et sur le mouvement social, ça vous inspire quel commentaire ?
Oui, je pour rebondir aussi sur ce que disait Hubert Védrine à l'instant, qu'est-ce qui se joue et au-delà, en effet, de la discussion sur les ordonnances elles-mêmes, sur lesquelles on peut en effet redire un mot dans un instant. Mais qu'est-ce qui se joue ? Se joue tout simplement la question de savoir qui incarnera l'opposition au pouvoir. On est dans une société démocratique, il n'existe jamais qu'un pouvoir ne crée pas, comme selon le principe d'action et de réaction, un contre-pouvoir, une opposition dont c'est la tâche de préparer l'alternance. Voilà. Donc on croyait au départ que Macron avait installé une opposition, on va dire, entre nous, les représentants de la société ouverte, pour le dire simplement, européens, ouvrant les bras à la mondialisation et aux nouvelles technologies, et eux, ceux qui le refusent, c'est-à-dire, pour aller très vite, ceux qui s'étaient portés sur Marine Le Pen. On pensait que la vie politique française allait structurer de cette manière-là, un peu comme le général de Gaulle avait installé nous, voilà, et puis eux, les communistes. Et que c'est à partir d'une recomposition autour des communistes, celle que d'ailleurs Mitterrand a faite, qu'allait se jouer l'avenir politique de la France pour ce quinquennat et peut-être celui d'après. La surprise, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il y a aussi un étonnement, c'est que ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce qui pouvait s'annoncer comme une recomposition des droites sur le modèle de ce que fut la recomposition de la gauche sous l'égide de Mitterrand, eh bien, a déraillé, parce que la droite ne s'est pas encore trouvé son Mitterrand pour l'instant, et puis que, si on suit cette métaphore, Le Pen, qui incarnerait la position qui était celle dans les années 60 du Parti communiste, est en plein doute existentiel. Alors tout ça crée peut-être un terrain fertile pour que la droite se reconstitue, mais ce qui apparaît à l'évidence aujourd'hui, c'est que ça ne se passe pas comme ça et que c'est Mélenchon qui, pour l'instant, incarne celui qui va reconfigurer l'opposition au pouvoir. Les questions de Philippot qui lâche Le Pen pose d'ailleurs, sur le fond maintenant, la question de savoir quelle sera la base programmatique de cette opposition. On peut imaginer beaucoup de choses complètement ouvertes. Prenons par exemple le rapport à l'Europe. Mélenchon a instruit un peu, enfin, a avancé de manière un peu ambiguë sur ce rapport à l'Europe, laissant d'ailleurs à Le Pen, pendant la présidentielle, le monopole de l'opposition à l'euro. Les choses peuvent évoluer très vite. Et puis, au fond, le front anti-euro étant abandonné par l'extrême droite, c'est comme ça qu'on interprète le départ de Philippot, Mélenchon pourrait le reprendre et alors on aurait à nouveau un débat comme celui qu'on avait eu sur le référendum qui donnerait une autre épaisseur, en quelque sorte, à cette opposition. Donc ça pour dire que la nouveauté, c'est que ce qui se construit aujourd'hui n'est pas du tout l'opposition attendue, mais une autre, venue de la gauche et pas venue de la droite, comme je crois on aurait pu tous se préparer à l'attendre au lendemain de la présidentielle. C'est pour ça qu'il y a une véritable nouveauté. De même que Mitterrand s'est imposé comme l'opposant en chef à Giscard, parce que c'était lui qui avait réussi à agréger toutes les forces disparates qui pouvaient exister dans le pays contre Giscard, eh bien, il y a effectivement un coup de force, enfin au sens vraiment pas péjoratif du terme, un effet Mélenchon aujourd'hui, auquel Hubert, vous devriez être plus sensible, parce que si c'est lui qui devient le représentant légitime de l'opposition à Macron, ça ne sera pas du tout la même chose que celle qu'on aurait si c'est évoqué.
Hubert, je pense que c'est très fragile.
Hubert Védrine va vous répondre dans un instant. Vous citiez François Mitterrand à l'instant, en effet, référence régulière de la part de Jean-Luc Mélenchon à François Mitterrand. Là encore, dans Marianne, il dit lui aussi Clivet, il n'était pas le candidat des médias, c'était le Mitterrand de la rupture. Alors ce Mitterrand de la rupture, hors système, c'est celui de 1971, du congrès d'Épinay, qu'on a eu envie de réécouter dans cette émission brièvement.
« celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste.
Hubert Védrine.
On est en 1971.
Absolument.
François Mitterrand est arrivé longtemps avant à la conclusion qu'il n'y aurait pas d'alternance en France. Et lui-même ne serait pas président. S'il n'y avait pas un dépassement de la contradiction absolue d'avant, qui est qu'on ne peut pas arriver au pouvoir avec les communistes, et on ne peut pas y arriver sans eux. Ça, c'est le malheur de la gauche non communiste depuis le début de la Ve. Imitant à l'audace extraordinaire ou angoissante, selon les points de vue, de dire « j'affronte ça, je vais faire du nom de la gauche, ce que vous venez d'entendre, c'est le prix à payer ça ». C'est le prix à payer pour que le Parti Socialiste soit pris dans le Parti Communiste, pardon. L'électorat communiste qui est plus gros, beaucoup plus gros que les socialistes. Le Parti Communiste le plus gros d'Europe, le plus stalinien, le plus compliqué à récupérer. Donc il entame une campagne extraordinaire, il va attraper dans ses filets, avec des phrases de ce type, l'électorat communiste. Quand les dirigeants communistes s'apercevront que Mitterrand va être plus fort qu'eux, qu'il va arriver au pouvoir, qu'ils vont être tenus, ils vont essayer de se dégager et de casser le processus. Après 74, ils n'y arriveront plus, que Mitterrand sera plus fort par son ascendant par rapport à l'électorat communiste et de gauche, au sens large, et tout ce que Daniel Cohen a rappelé, puisque Mitterrand avait rassemblé tous les différents morceaux. Et il y a une puissance énorme derrière ça, l'alternance n'a pas eu lieu. C'est la différence totale avec aujourd'hui, où elle a eu lieu plusieurs fois, et les Français ont conclu que ça changeait finalement pas grand-chose. Bon, à l'époque, il y a une espérance énorme, plus le talent stratégique de Mitterrand, etc. Donc il faut pas faire d'anachronisme, il faut remettre cette déclaration forte dans le contexte de la création de ce parti d'Épinay, où d'ailleurs Mitterrand prend le contrôle de ce parti dont il n'était pas membre deux jours avant, par une association entre l'aile droite, de Fer, ou modéré, Mauroy, et puis l'aile gauche, le CRS de Chevènement, en prenant en sandwich ceux du milieu. Donc c'est à un moment donné de l'histoire de la gauche, et je pense que rien ne peut se reproduire à l'identique.
Merci pour ce rappel historique, Monique Cantus-Perber, cette référence à Mitterrand récurrente chez Jean-Luc Mélenchon. Ce Mitterrand-là, sans doute, celui de 1971 et du congrès d'Épinay.
Eh bien, Mitterrand a sans doute, aux yeux de Mélenchon, construit un peuple de gauche qui a été rassemblé sous la bannière du Parti Socialiste, qui peut-être ne correspondait pas à une réalité sociale très constituée. Pour Mélenchon, Macron n'a pas de base sociale. Il n'a que ses 24%. Il le répète sans arrêt. Le président des 24%. Alors lui, il n'en a eu que 19 au premier tour, mais lui fait ce que Macron ne fait pas, enfin peut-être pas encore, parce qu'après tout, on peut imaginer aussi des formes de populisme technocratique et plus intellectuel. Mais Mélenchon fait ce que beaucoup ont déjà fait dans l'histoire, l'appel au peuple. Je suis le peuple, je suis la voix du peuple, je parle au nom de l'intérêt public. Il se réclame de deux philosophes dont les noms ont été souvent cités dans les analyses consacrées à la pensée de Mélenchon. D'une part, Chantal Mouffe, qui est professeure en Grande-Bretagne, et puis d'autre part, Judith Butler, philosophe américaine. Et d'ailleurs, un livre récent de Chantal Mouffe s'appelle « Construire un peuple ». Mélenchon construit son peuple. Il le construit à partir d'une conception radicale de la démocratie, donc quand même la démocratie représentative est tenue un peu à l'écart, d'une conception ardente, toujours vive et créatrice du conflit. Les conflits n'ont pas à être éteints par des formes de consensus. Et il le construit également à partir d'une communauté d'affect. Alors des bonnes passions ou des mauvaises passions, l'enthousiasme ou bien la dénonciation et la paranoïa. Et tout ça, ça constitue ce qu'il appelle le populisme de gauche. Et avec une telle armure, d'une certaine façon, il n'a plus à se poser la question de la légitimité, la question des contre-pouvoirs, la question de l'exercice du gouvernement. Il est, en quelque sorte, globalement cautionné. Avec ce type de certitude, on peut aller très loin dans un mouvement politique.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
Voilà, on va à présent refermer ce chapitre hexagonal, faire plaisir à Hubert Védrine. On va partir pour les États-Unis. C'était mardi à la tribune des Nations Unies, l'allocution qu'il est intéressant d'écouter ou de réécouter en version originale, celle de Donald Trump, bien sûr, sur America First, l'accord avec l'Iran et bien sûr la Corée du Nord.
The United States has great strength and patience. but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing, and able, but hopefully this will not be necessary. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it, believe me. As President of the United States, I will always put America first.
À quoi ressemble le monde selon Donald Trump? Seconde partie de ce nouveau numéro de l'Esprit public après cette allocution un peu improbable de Donald Trump réveillant l'axe du mal de Bush mais sans proposer de solution, remettant en cause l'accord sur l'Iran, menaçant de détruire totalement la Corée du Nord et qualifiant le leader nord-coréen de Rocket Man, un sobriquet à la tribune des Nations Unies, du jamais vu dans cette enceinte, Hubert Védrine.
D'abord, je pense qu'il faut distinguer dans ce que dit Trump ce qu'il dit sur la Corée du Nord. À la limite, ça peut s'entendre, hein, se comprendre ce qu'il a dit. Il faut raisonner sur les suites. Et ce qu'il dit sur l'Iran, qui est totalement indéfendable. Depuis la révolution islamique en 1979, il y a eu beaucoup de sanctions américaines parce qu'ils n'ont pas admis, évidemment, l'occupation, l'invasion de l'ambassade des États-Unis, les otages, surtout la chute du Shah d'Iran. Mais ils ont accumulé des sanctions au fil du temps. Et puis, dans les dernières années, soit parce que c'était la conviction américaine, soit c'était sous l'influence de Netanyahou, ils ont considéré qu'il y avait un programme nucléaire dangereux, ce qui est sans doute vrai, et il y a eu des sanctions d'une autre nature, contre le programme, pas simplement contre le régime, contre le programme nucléaire. Et le programme nucléaire était suffisamment... les intentions nucléaires militaires ont été suffisamment attestées pour qu'il y ait également des sanctions européennes, puis Conseil de sécurité. Quand Obama est arrivé, je résume, hein, il a dit on est dans une situation impossible. Il y a des sanctions depuis des années qui pénalisent le peuple iranien mais qui ne ralentissent pas le programme. Et sur ce point, il était d'accord avec les cris d'alarme israéliens sur les risques du programme. Et alors la solution, c'est quoi? C'est de poursuivre ces sanctions sans fin, sans résultat, ou alors de bombarder l'Iran, comme d'ailleurs Netanyahou l'avait demandé plusieurs fois. Mais même George W. Bush, le président américain le plus aligné sur la droite israélienne avant Trump, lui-même est considéré que c'était de la folie. Et les militaires avaient expliqué que détruire le programme nucléaire iranien à l'époque, c'était pas une nuit de missiles, hein. C'était une guerre de plusieurs semaines. Donc Obama a dit c'est une situation insensée, il faut en sortir, il faut qu'on trouve un accord qui amène les Iraniens à convaincre ceux des Iraniens qui seront d'accord contre ceux qui veulent continuer, à passer un accord où ils renoncent avec une vérification extrêmement exigeante à ce programme. Obama y est arrivé après des tas de péripéties que je passe, et tout le monde ne l'a pas totalement soutenu, mais enfin il a abouti à un accord le 14 juillet 2015, dans lequel les Iraniens renoncent au programme, enfin suspendent le programme nucléaire, des inspections très 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 intrusives de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, et voilà l'accord qu'Obama a obtenu, alors qu'il avait déjà une majorité hostile au Congrès américain, avant même Trump. Donc il a fait preuve d'un courage impressionnant par rapport à ça. Les Iraniens appliquent l'accord, et l'agence le dit tous les trois mois, ils appliquent l'accord. Mais Trump a fait campagne contre, parce que ce qu'on pourrait appeler l'état profond aux États-Unis, expression dont on parle à propos de la Turquie, mais c'est aux États-Unis, tout un système, les agences, les services, le CIA, le Pentagone, tout le parti républicain, ils pardonneront jamais à l'Iran, jamais, ce qui s'est passé en 79. Donc ils veulent casser l'accord, mais quand Trump... Il est très, très direct et très dur sur la Corée du Nord, mais vous avez entendu, quand il parle de l'Iran, il dit c'est un accord embarrassant. Il a annoncé plein de fois qu'il allait le casser. Donc la situation d'aujourd'hui, c'est soit Trump va au bout de ce raisonnement et il ne peut pas casser l'accord, c'est un accord avec d'autres co-signataires. Il y a la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine, et puis il est soutenu très largement au-delà. Il peut sortir les États-Unis de l'accord. On pourrait dire dans ce cas-là, il faut que le monde réagisse comme le monde l'a fait très bien. Moi, je ne crois pas qu'il y ait encore une communauté internationale, mais des fois, il y a une sorte d'unanimité sur le climat. Il est sorti, le monde entier a dit, vous faites ce que vous voulez, nous, on continue. Et ça continue. Même avec beaucoup d'Américains, Californie, etc. Sur l'Iran, c'est plus compliqué. Parce que les États-Unis ne se borneraient pas à dire, nous, on sort de l'accord. Ils continuent à menacer par leur système scandaleux de sanctions unilatérales, de représailles financières féroces, toutes les entreprises qui appliqueraient légalement, normalement, l'accord. Et c'est très difficile le jeu de monter des financements internationaux pour développer ce pays dans la partie où c'est légitime. Dès que vous utilisez un américain ou un dollar, vous pouvez pas. Vous êtes écrabouillé par les sanctions américaines. Donc la question, est-ce qu'on peut empêcher, on étant les autres co-signataires, Trump d'aller au bout de la destruction de l'accord? Et s'il le fait quand même, est-ce qu'on peut s'organiser pour le faire fonctionner contre les États-Unis?
Voilà le résumé d'aujourd'hui. Vous avez la réponse à cette
question? Je ne sais pas encore. Moi, je souhaite énormément la deuxième option, c'est-à-dire qu'on arrive à démontrer à cette occasion que dans des cas où les États-Unis ont tout faux, quoi. On arrive à s'organiser quand même malgré eux, si les Iraniens continuent à appliquer l'accord, bien sûr. C'est très important, ça. Mais c'est devant nous, la question. Alors, jusqu'ici, le président Macron a pris les positions claires et nettes qu'il faut, mais est-ce que collectivement, les co-signataires auront le courage de monter ça? Je ne sais pas. Je le souhaite.
Alors Hillary Clinton, vous l'avez sans doute lu, Daniel Cohen, en Une du Monde hier, considérait que Donald Trump était plus dangereux qu'impuissant. Parce qu'il y a souvent la mise en opposition de ces deux concepts-là quand on parle du nouveau président américain, sa dangerosité, et puis, c'est le scénario souvent optimiste, la lecture souvent optimiste, son impuissance, puisqu'il y a le bon fonctionnement de la démocratie américaine, des contre-pouvoirs américains. Vous donnez raison à Hillary Clinton, Daniel Cohen ?
Oui, en partie, mais pour bien comprendre la nature de la contradiction dans laquelle Trump entre tout seul, en quelque sorte. Il annonce, au fond, un programme isolationniste. L'Amérique n'a pas besoin de tous ces accords qui l'empêchent d'exister, l'accord sur le climat, l'accord avec l'Iran. Bien. Donc, l'Amérique redevient la seule garante de son intérêt propre. Et puis, Rocketman, le Coréen, le défie sur cet isolationnisme même. Il dit, si tu t'intéresses à rien, laisse-moi faire ce que je veux. Il lui renvoie une image, là, je suis sûr que vous trouverez des choses à dire là-dessus, mais une image presque symétrique de lui-même. Tu fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Il n'y a aucune raison de mettre fin à mes pulsions, puisqu'il n'y a pas d'ordre au nom duquel on le met. Et Trump voit se refermer le piège, puisque, au fond, pour empêcher la Corée du Nord d'aller au bout de sa folie, il a besoin d'un système d'alliance. Il a besoin, par exemple, de la Chine. Il n'arrête pas de réclamer que la Chine fasse pression sur la Corée du Nord. Mais il menace, par ailleurs, la Chine dans les accords commerciaux. De même la Corée du Sud. Il a évidemment besoin de la Corée du Sud. C'est l'allié et c'est au nom de la Corée du Sud, en partie, que tout ça se fait. Mais il menace aussi la Corée du Sud de sanctions commerciales. Et donc, on comprend que la réalité du pouvoir américain est beaucoup plus complexe que simplement être capable d'envoyer une bombe atomique quelque part. C'est un ensemble où la puissance dominante doit avoir du hard power, envoyer des bombes, du soft power et un relais diplomatique, une place dans le monde qui inclut beaucoup de choses. Et on ne peut pas retirer un bout sans que le reste s'effondre. Et c'est ça le cœur, je crois, de la difficulté qu'a Trump à faire vivre son propre projet. L'Amérique ne peut pas être great again si elle se retire de tous les accords qui la font great again. Ça passe par le climat, ça passe par les accords commerciaux et ensuite, évidemment, ça passe par les relais d'influence que l'Amérique peut avoir auprès de ses différents alliés. Donc, la vision que Trump a lui-même de la grandeur américaine est auto-contradictoire. Et ce petit homme, Rocketman, Kim, lui montre. Et c'est pour ça qu'il est si désemparé, je crois, en grande partie.
Ouais, je dis moi, ouais, en effet, vous parliez d'Ajax tout à l'heure.
Je reviens à Ajax. Avant de partir pour la guerre de Troie, il va voir son père, Télamon, et Télamon lui dit cette chose extraordinaire, il dit « Mon fils, veuille la victoire, mais la victoire avec l'aide des autres. » Et Ajax lui répond « Si j'ai besoin des autres, alors je ne peux pas être un grand héros, je dois y parvenir absolument tout seul. » Et c'est cette espèce de hubris, cette espèce de désir de grandeur, c'est-à-dire de s'égaler au niveau des dieux, qui va perdre Ajax complètement, alors que c'est en effet un type instinctif qui a le cœur bien placé à la bonne place. On pourrait dire ça d'une certaine façon de Trump. C'est un type émotif, c'est un type qui s'émeut, c'est un type qui est capable de changer d'une chose à une autre uniquement parce qu'une image vient le bouleverser complètement. Il y a quelque chose d'assez, d'une certaine manière, on pourrait dire assez assez beau là-dedans, dans une manière de faire la politique selon le cœur, on va dire. Bon, c'est pas le diable complètement, enfin. Mais dès que il y a l'aveuglement, le désir de justement être à l'endroit seul. Et ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est ce que vous parlez du climat, et ça, je crois que c'est vraiment très important. Dans le monde grec, il y a évidemment les oracles. Les oracles ne sont jamais entendus. Et si vous voulez, la grande différence entre le monde grec et le monde chrétien, c'est que le monde chrétien ne cesse de dire « repentez-vous, repentez-vous, la fin du monde va arriver ». Les Grecs ne disaient pas ça, ils disaient « de toutes les façons, ça va se passer ». Et même les dieux poussaient les humains à faire le plus de fautes possible pour que la catastrophe arrive le plus rapidement possible. Mais là où les oracles parvenaient sur des espaces déterminés, par exemple Thèbes, la peste va raser Thèbes, mais ce n'était que Thèbes. Aujourd'hui, on pourrait dire, si on suit la logique grecque, c'est que les oracles qui nous parlent du climat, enfin qui nous parlent de l'état de notre planète, ce n'est plus Thèbes, ce n'est plus New York, ce n'est plus que Paris, c'est la planète au complet. Et les oracles sont terribles. Les oracles sont terribles. C'est-à-dire dans 40 ans, dans 60 ans. Et c'est ça qui n'est pas entendu. Et si on est dans la logique grecque, c'est-à-dire que là, les dieux nous poussent à aller encore plus vite vers la catastrophe, puisque de toute façon, elle est inévitable. Et Trump participe à cette accélération, il me semble, justement par ce désir de solitude, enfin d'isolation.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Monique Cantos-Perber, c'est aussi l'hubris dont parlait Wajdi Mouawad à l'instant, que vous voyez venir la peste, la catastrophe, alors même qu'on a un président américain qui dit que sa vision du monde est conduite par le réalisme, par le pragmatisme.
Alors, je suis très touchée par cette comparaison parce que moi aussi, je me suis très souvent dit que Trump était une sorte d'Ajax qui a eu des intermittences de claire vision, une puissance d'agir extrêmement désordonnée, qui ne peut pas orienter son action vers autre chose que ceux qu'il voit comme des ennemis et qui est en même temps enfermé dans sa propre puissance, en quelque sorte. Il est paralysé par sa propre personnalité, par son propre comportement. Il y a l'aveuglement par Athéna chez Homère, et là, il y a l'aveuglement par ses préjugés, cette forme de populisme, lui aussi, qu'il veut défendre et qui, d'une certaine manière, brouille constamment et presque contre sa volonté, sa vision, et l'amène à ce qui est quand même une incarnation de la politique extérieure américaine assez chaotique, parce qu'il se contredit, il revient sur des engagements qu'il a pris, il est extrêmement impétueux, il fait des effets d'annonce, mais au bout du compte, sur l'OTAN, sur les relations à la Russie, sur la Syrie et même sur les rapports avec la Chine, est-ce qu'il y a vraiment une immense différence par rapport à la politique extérieure d'Obama? J'en suis pas sûre, d'autant qu'il est maintenant entouré de responsables de la diplomatie américaine qui sont beaucoup plus raisonnables. Moi, ce qui me frappe, bien sûr, à l'affaire de la Corée, on se demande à quoi il joue. Est-ce qu'il va accepter que la Corée soit une puissance nucléaire, ou qu'est-ce qu'il pense vraiment qu'il peut utiliser la manière forte avec la Corée? Ni lui, ni le leader nord-coréen, ni coréen n'y croit, parce que sinon il n'agirait pas comme ils agissent. Est-ce qu'il va se résoudre, lui, le fauve enfermé dans ses chaînes, à un accord avec la Corée? C'est assez difficile à imaginer. Mais ce qui me frappe le plus, je terminerai là-dessus, c'est l'ambiguïté de sa position, la confusion plutôt de sa position avec la Chine, qui est quand même un acteur international fondamental. Et je suis en accord total avec ce que Daniel Cohen a dit. Demander à la Chine d'avoir une position plus claire sur la Corée du Nord, même si ça va tout à fait à l'encontre de ses intérêts géopolitiques et économiques, c'est une chose. Mais mêler cette histoire, cette affaire, contrairement à tout ce qu'a fait la diplomatie nord-américaine au cours des années précédentes, à la guerre commerciale, à l'attitude de la Chine, non-respect de la propriété intellectuelle, mauvais environnement, absence d'arbitrage, etc., le mêler constamment à des questions de régulations économiques, c'est tout à fait déraisonnable. Et ça met la Chine dans une position où elle ne peut pas avoir le rôle positif de pacificateur qu'on attendrait d'elle.
Hubert Védrine, au-delà de ces relations, la relation entre les États-Unis et la Chine, est-ce que vous parvenez à le qualifier finalement dans sa diplomatie, ce président américain-là? Est-ce qu'il est un opportuniste sans idéologie? Est-ce qu'il est dangereux avant d'être impuissant ou impuissant avant d'être dangereux? Est-ce qu'il est un plutocrate sans complexe? Est-ce que vous savez le définir?
D'abord, je pense qu'il est dans sa politique plus égoïste qu'isolationniste. Égoïsme, intérêt américain d'abord. Il reste très soutenu, hein. Et c'est pas parce que, disons, les élites mondiales mondialisées, les Européens et les démocrates ont rien compris à Trump et qu'ils restent encore sidérés à se presser la cervelle pour comprendre ce qui se passe que Trump est affaibli. Non, il n'est pas affaibli du tout. La base qui a dit Trump est très contente. Elle pense qu'il a raison de défier l'ensemble de ces gens qui comprennent rien à leur vie, à leurs besoins, le fait de réaffirmer l'Amérique. Tous ces gens détestent la mondialisation dans la forme qu'elle a prise, en pensant que finalement ça les affaiblit. Donc il ne faut pas qu'on pense qu'à travers nos interrogations, ça traduit une sorte d'affaiblissement de Trump. Et puis l'impeachment auquel rêvent beaucoup de gens, il n'est pas enclenché. Il n'y a pas les éléments constitutifs. Et il faudrait que les élus républicains, et encore pensent qu'ils vont être écrabouillés aux prochaines élections intermédiaires, sauf s'ils lâchent Trump, on n'en est pas là du tout. Bon, ce qui fait que le reste du monde s'organise plus ou moins, il en faut faire avec. On comprend pas bien, mais enfin, il faut faire avec. Mais il représente clairement une Amérique, hein, quels que soient les mots qu'on plaque sur lui. Pour le reste, je pense que c'est pas du tout un fou. Il a une logique à lui qui est très, très sommaire, très, très primaire. Mais enfin, il a une sorte de logique. Il est en effet souvent impulsif, mais ça me rassure pas, parce que la politique conduite par le cœur, c'est un coup d'émotion. Ça peut conduire à ce qu'il y a de pire, quand même, donc... Je serais assez pour remettre un peu de cerveau là-dedans, si on pouvait.
Mais question très basique, est-ce qu'il vous inquiète sur la question nord-coréenne, sur la question iranienne, non, sur l'après-Daesh? Est-ce que ce président-là vous inquiète?
Sur la Corée du Nord, c'est la Corée du Nord qui est inquiétante. Faut pas renverser la chronologie, en fait. Bon, dans la réaction à la Corée du Nord, les présidents américains se sont tous demandé depuis 20 ans, est-ce qu'ils pouvaient neutraliser le programme nucléaire de Corée du Nord? Ils ont conclu que non, ils comptaient beaucoup sur la Chine. Mais la Chine est embarrassée, pas parce que Trump, par ailleurs, les met en cause sur le plan des pratiques commerciales, parce qu'ils en profitent beaucoup. L'abandon du grand projet d'Obama, la réussite d'Obama sur le grand accord commercial Asie-Pacifique-États-Unis, qui était une réussite majeure d'Obama, Trump l'a abandonné, c'est complètement incohérent par rapport, même par rapport à America First. C'est idiot, les Chinois en profitent de tout ça. Donc ils ne sont pas que révulsés par la politique de Trump, ça peut leur rendre service. Enfin, pour être plus clair, il peut être potentiellement dangereux par des réactions impulsives, mais le vrai danger, c'est la Corée du Nord. Je pense que si Trump avait été convaincu par les militaires qu'il pouvait anéantir en une nuit tout le système nucléaire nord-coréen, il l'aurait fait. Mais même avec ce personnage, on voit comment il est, les généraux autour lui ont dit « mais on ne peut pas garantir absolument qu'il n'y a pas de représailles, parce qu'il y a tout un système d'artillerie classique, par ailleurs mobile ». Les Nord-Coréens répliqueraient sur Séoul, qui est juste à côté. Et d'ailleurs, même l'idéologue d'extrême droite qui a quitté la Maison-Blanche l'a dit. Hein, on parle pour ne rien dire, parce qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait 500 000 morts en Corée du Sud. Donc on ne peut pas. Le plus probable, c'est qu'on arrive à la conclusion que, ben, voilà, de facto, ils sont devenus une puissance nucléaire et que les Occidentaux ne contrôlent pas ou plus le monde. C'est le cas depuis longtemps. Hein. Bon. Et qu'il n'y a pas de système international, qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, et que même si l'Occident est encore très très puissant et très riche, ils doivent de facto accepter ce monde semi-chaotique, multipolaire.
Hillary Clinton dit aussi.
C'est sans doute ça qui va se produire. Hein.
Hillary Clinton dit aussi dans Le Monde que Donald Trump est en train de faire perdre aux États-Unis leur leadership moral. Est-ce que ce n'est pas leur leadership tout court, Daniel Cohen?
Oui, moi je pense. Enfin bon, encore que ça a souvent été annoncé, mais en tout cas, il les corne, ça c'est absolument clair. Et pour revenir sur ce point, est-il isolationniste ou est-il égoïste? Un égoïste, normalement, on attend de lui qu'il ait une conscience claire de ses intérêts, de l'objectif à atteindre pour y parvenir. J'ai l'impression que ça n'est pas du tout le cas de Trump, qui de ce point de vue-là est en pleine confusion et qui entraîne l'Amérique dans sa confusion. Si on essaye de résumer les choses très simplement sur ce que fait Trump et ce qui serait, on va dire entre guillemets, bon pour l'Amérique, du point de vue de l'Amérique, en incluant dans l'Amérique, évidemment, l'extraordinaire diversité de situations qui font ce pays, comme un très grand nombre d'autres pays. Trump mène en interne une politique ultra-libérale. C'est-à-dire que
vis-à-vis de laquelle Reagan était un amateur, c'est-à-dire qu'il veut tout déréguler de tout ce qui a été construit en matière de réglementation financière, alors qu'on sort tout juste d'une crise qui a montré les inconvénients de tous ces excès. Et s'il pouvait annuler le salaire minimum, faire toutes les choses que l'Amérique a progressivement instituées en son propre sein pour lutter contre cette extraordinaire explosion d'inégalités qui détruit ce pays de l'intérieur depuis 20 ou 30 ans, s'il pouvait les enlever, il le ferait. Mais la chose extraordinaire, c'est que ce programme ultra-libéral en interne, il l'accompagne une espèce de compensation idéologique en grande partie, qui est de protectionnisme repensé à l'échelle externe. En tout cas, c'est là-dessus qu'il a été élu, des murs avec les Mexicains, des barrières douanières avec le commerce, comme si, en quelque sorte, le mal venait de l'extérieur et que si on mettait des bonnes frontières tout autour, l'Amérique pourrait revenir à l'idéal des pionniers sans aucune régulation interne pour aller vers son terme. Il me semble, sans faire de grandes démonstrations, que c'est évidemment exactement le contraire qu'il faudrait faire en Amérique, c'est-à-dire assumer son leadership dans la mondialisation actuelle. Enfin, vu du reste du monde, on a tous l'impression que c'est l'Amérique le premier bénéficiaire de la mondialisation avec ses nouvelles technologies, sa puissance financière, etc. Et faire en interne un programme de reconquête de la société, de réduction des inégalités et de tout ce qu'il faut pour que le tissu ne se déchire pas. C'est ce que Obama aurait pu faire, oui, s'il avait disposé d'un congrès qui l'aurait aidé, oui, à gouverner. Mais en effet, l'Obamacare faisait partie de ce projet de reconstituer. Mais on pense à beaucoup d'autres choses qui devraient être faites. Bernie Sanders avait plutôt construit sa popularité sur ses énormes trous dans le système interne aux États-Unis de constitution d'une société qui se tienne. Donc, je reviens à Trump. Donc, Trump, en réalité, est assis sur une posture intenable du point de vue de sa construction intellectuelle, de sa construction idéologique. Et c'est celle-là qu'on retrouve dans les contradictions auxquelles il est constamment confronté de vouloir de la Chine sans en vouloir. Il reçoit Madame Merkel, qui est principale alliée des États-Unis depuis longtemps. Il l'insulte, il lui serre pas la main parce qu'elle a un excellent commercial qui gêne les États-Unis. Bref,
contradiction qu'on voit aussi dans son entourage avec la disgrâce de Steve Bannon, son Rasputin ultranationaliste, voilà, anti-establishment. Voilà. Fait qu'on ne sait plus aujourd'hui qui conduit cette politique étrangère américaine.
Et de ce point de vue-là, il y a une ressemblance avec le populisme latino-américain. On a beaucoup parlé de ça à propos de Mélenchon parce qu'il est soutenu Chavez, mais le populisme latino-américain, quand il est étudié dans le détail, c'est exactement ça, c'est-à-dire mener des politiques externes complètement extravagantes sans se donner jamais les moyens de corriger, de transformer la société de l'intérieur. Je pense qu'il y a le même aveuglement, effectivement, au nom de cette idée d'un peuple insécable. Mais il n'y a rien à faire de l'intérieur, parce que si le peuple est tout uni, il n'y a pas à faire de politique de redistribution ni quoi que ce soit, il est déjà existant. Mais le danger vient du reste du monde et du coup, on rentre dans un aveuglement, je crois, qui détruit un peu métaphoriquement aussi, il ne faut pas se laisser porter par les mots, mais qui est au cœur de ce qui fait que Trump mène des politiques globalement stupides, il me semble qu'on peut le dire comme ça.
Stupidité de Donald Trump, Monique Cantos-Berber.
En tout cas, tension entre politique intérieure et politique extérieure, ça, je crois que c'est tout à fait avéré, mais la politique extérieure elle-même manque de vision ou de ligne directrice, parce que America First, ça veut évidemment dire affirmation des intérêts de l'Amérique. La campagne de Trump s'est faite sur l'idée que les accords internationaux commerciaux nuisaient aux travailleurs américains et les privaient de travail. Vous vous rappelez, c'est une très nombreuse interview dans des endroits frappés par des États-Unis frappés par la désindustrialisation dont était rendue responsable une politique commerciale trop favorable aux intérêts des partenaires des États-Unis. Mais par ailleurs, l'attitude à l'égard de l'Allemagne, l'attitude aussi à l'égard de la Chine. Et là, Trump sait qu'il appuie sur une corde sensible. La Chine ne veut pas une guerre commerciale avec les États-Unis. Ce serait complètement contraire à ses intérêts. Mais d'un autre côté, il est au fond bien américain, au sens où America First, ça veut dire aussi les valeurs de l'Amérique d'abord. Rappelez-vous ces attaques contre les manquements à la démocratie à Cuba et au Venezuela. Il a quand même cette voix-là, c'est-à-dire il s'improvise en défenseur des valeurs démocratiques. Et je crois qu'il le fait avec une certaine sincérité. Il ne se pose pas la question de la cohérence avec le reste de sa politique, peut-être. De même que sa réaction extrêmement immédiate et l'intervention de Nikki Haley à l'ONU était quand même... Nikki Haley, la représentante
l'ambassadrice américaine aux Nations Unies.
Des États-Unis aux Nations Unies. montrant les photos des enfants tués par le bombardement chimique. Les frappes ont suivi immédiatement contre le régime syrien. Bon, il y a quand même une affirmation de valeur, de ligne à ne pas dépasser, mais en effet, ça manque de profondeur. Il a une relation presque contractuelle avec ses alliés dans le multilatéralisme, c'est-à-dire ils ne payent pas assez. Ils ont des bénéfices, mais ils ne payent pas assez. Ils voient les choses de manière très, d'une certaine façon, deal commercial ou participatif, et ils passent à côté de ce qu'a fait au cours des décennies précédentes quand même la grandeur de l'Amérique, c'est-à-dire sa capacité de leadership. Alors je ne dirais pas leadership tout court ni leadership moral, mais en tout cas leadership normatif, sa capacité à imposer des normes qui sont des normes bon, prétendues être universelles, à tort ou à raison.
Vous avez le mot de la fin, Hubert Védrine. Finalement, il vous donne raison, ce président Trump, vous qui depuis des années, en effet, parlez de l'éclatement des pôles, de la fin d'un monde bipolaire et d'un monde éclaté en un monde multipolaire. Il vous donne raison d'une certaine manière, ce président-là?
Ça me navrerait qu'il faille passer par Trump pour constater que j'avais malheureusement pas tort en tenant des propos plus réalistes que ce qu'on entend en général, puisque j'ai combattu l'irréal politique dans laquelle on baigne depuis longtemps et qui a accéléré notre affaiblissement. Mais non, pour venir sur Trump, je pense qu'il faut que le monde s'organise. Tant qu'il est là, s'organise mieux. Ce qu'a dit Mme Merkel il y a quelque temps en disant « on ne peut plus compter sur eux, il faut s'organiser plus », ça me paraît très important. Et pour moi, c'est encore plus important que la relance, le perfectionnement de la zone euro avec l'Allemagne. Je ne suis pas opposé à ça, mais je pense qu'il faut avoir les deux en tête, parce que Trump est là, il est très 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 américain. L'Amérique ne redeviendra jamais le leader moral, disons, de 45, qui redeviendront jamais l'hyperpuissance dont je parlais dans la décennie de 90. Mais ils sont pas non plus rien, et on va être dans une sorte de communauté indistincte. Donc il faut s'organiser dans un rapport un peu plus froid, un peu plus distancié, un peu plus négocié que l'Amérique de demain, d'après-demain et même d'après Trump.
Distance, froideur et négociation, ce sera vos trois mots de la fin. Merci Hubert Védrine, merci Monique Cantos-Perber, merci Daniel Cohen et merci beaucoup Wajdi Mouawad d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de L'Esprit Public. Merci à Céline Leclerc qui a préparé avec moi cette émission, Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé, à la technique aujourd'hui, Olivier Dupré et Emmanuel Armin. Dans un instant et comme tous les dimanches à la même heure, on ne parle pas la bouche pleine. Alain Crugère nous emmène chez Valérie Guérin, vigneronne dans la vallée du Rhône, élevée aux meilleures crues de Côte-Rôtie et de Châteauneuf du Pape, avec un père pionnier du bio entre Narbonne et Perpignan. Bienvenue au domaine des mille pieds de vigne. Et moi, je vous dis à dimanche prochain.